jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Le proviseur d'un lycée quitte son établissement, démissionne ou plutôt part à la retraite anticipée car il est victime de menaces de mort. Beaucoup de réactions au 3210. J'espère cette émission commence, mais je vais prendre tout de suite le premier auditeur, Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour Éric.
Que faites-vous dans la vie ?
Ah ben maintenant je suis à la retraite, mais j'étais un ancien professeur, un ancien proviseur de lycée professionnel.
Qu'est-ce que en deux mots là tout de suite, dites-moi ce que vous pensez de la réaction un peu dépitée, désabusée, démoralisée de votre collègue.
Alors je le comprends, mais ça m'a choqué évidemment, et je suis en total accord avec la plainte qui a été déposée par le
par l'État.
Par M. Attal, voilà.
Oui, c'était l'État a porté plainte contre la lycéenne qui avait accusé ce proviseur. Eh bien, vous savez quoi? Restez avec moi, vous déploierez dans un instant vos arguments, mais tout de suite Céline Landreau sur RTL, le rappel des titres.
17 personnes convoquées depuis ce matin dans le hameau du Haut-Vernay pour une mise en situation. Une première, plus de 8 mois après la disparition du petit Émile qui n'a plus été vu depuis le 8 juillet dernier. Sa famille, les témoins sont présents. Les enquêteurs espèrent ainsi voir se dégager une piste dans un village qui a été complètement bouclé le temps donc de cette mise en situation. Un jeune de 17 ans a lui été interpellé ce matin à Malakoff, en banlieue parisienne, dans l'enquête sur les piratages des plateformes numériques de plusieurs lycées. Des menaces d'attentats notamment se sont multipliées ces derniers jours en visant les établissements scolaires. Et puis le gouvernement réunit cet après-midi à Bercy des parlementaires de la majorité et de l'opposition pour tenter de trouver des économies après l'envolée du déficit. Parmi les pistes déjà évoquées par Gabriel Attal, Premier ministre hier soir, la réforme de l'assurance chômage, la durée d'indemnisation pourrait ainsi être réduite et passer de 18 à 12 mois. La météo, Peggy Broche, pour cet après-midi avec encore cette tempête sur l'ouest.
Oui, sur une bonne partie nord d'ailleurs du pays, la tempête Nelson qui touche les départements du nord avec 6 qui sont en vigilance orange pour vent entre le Finistère, les Côtes d'Armor et la Charente-Maritime. On attend des rafales jusqu'à 130 km par heure sur les côtes, 80 dans les terres, de fréquentes averses attendues sur la moitié nord, localement du grésil, des orages également par moment. Et puis sur la moitié sud, on a un temps beaucoup plus calme avec beaucoup de nuages sur l'Aquitaine, quelques ondées possibles cet après-midi, du vent fort sur les Pyrénées. Et dans le sud-est, globalement, c'est le retour du soleil avec du beau temps, sauf en Corse où ça restera pluvieux cet après-midi avec encore pas mal de vent. Et attention au risque d'avalanche qui est bien marqué sur la montagne Corse. Et les Alpes du Sud, les températures, elles sont en légère hausse. On attend 11 degrés cet après-midi à Rouen, 12 à Paris et Reims, 13 à Nantes, 14 à Bourges comme à Limoges, 15 à Cognac, 16 degrés à Grenoble, 17 à Nîmes, Tarbes et Marseille, 19 à Biarritz et 21 à Bastia.
Et demain, est-ce que ce sera plus calme ?
Non, demain, on a une perturbation bien pluvieuse entre le sud-ouest et le nord-est du pays. Ça va quasiment plus.
Mais vous allez arrêter un peu de nous
annoncer. Oui, mais ça va continuer encore le week-end de Pâques, pardon, désolé.
Face aux œufs humides.
Mais oui, mais...
Voilà, exactement. Pour le soleil, ce sera plutôt dans le sud, dans l'après-midi. Et on aura encore beaucoup de vent également vers la vallée du Rhône. Attention au risque d'avalanche qui sera marqué sur les Pyrénées cette fois. Des températures en hausse, par contre, parce que c'est du vent de sud. 12 à 17 degrés sur l'ensemble du pays, jusqu'à 20 près de la Méditerranée, même 25 degrés demain à Perpignan.
Merci Peggy.
Merci Peggy et à demain Céline, demain à midi bien évidemment pour votre rendez-vous quotidien. Je dois vous dire que, mesdames, messieurs, l'heure est grave car Lisa Marie Marquez a posé 2 jours. Elle reviendra mardi, elle va très bien et elle va nous écouter mais elle n'est pas dans le studio. C'est donc un moment de promotion sociale considérable pour le chef du Standard, Victor, qui se retrouve avec un casque et qui est derrière le micro. Mesdames, messieurs, bonjour mon Victor.
Bonjour Eric, je vous ai jamais vu d'aussi près.
Bon, et c'est Enzo du Standard qui vous remplace là-bas, il y a un jeu de domino. C'est formidable, je suis très heureux que vous soyez là et j'embrasse Lisa Marie qui nous écoute, bien sûr, les messages que nous avons reçus sur le répondeur.
Eh bien écoutez, Pierre Herbulot nous en parlait tout à l'heure, 69% des ingrédients contenus dans les plats préparés sont d'origine inconnue. Et Martin a donc réagi et laissé ce message.
Eh bien moi j'évite tant que possible d'acheter les aliments transformés, mais quand j'ai pas le choix, j'utilise l'application Yuka. Car quand je regarde les étiquettes, c'est très dur et c'est très long à s'y retrouver. Et j'ai pas envie de passer 3 heures au supermarché.
Et donc, bah, vous aussi, réagissez à ce sujet. On en parle tout à l'heure après 14 heures. Et puis Arnaud nous a contacté juste avant midi au sujet des accidents de travail.
Bonjour, je m'appelle Arnaud. J'ai eu un accident de travail en novembre 2016. Et actuellement, toujours en procès avec mon patron. Je comprends pas pourquoi c'est aussi long alors qu'on voit qu'il a... mal fait les choses.
Ouais. Gabriel Attal le disait hier soir durant le JT de TF1, la France doit progresser en matière de sécurité au travail. Rendez-vous compte, Eric, 2 morts par jour en France en 2023.
Et quand on compte les morts du secteur agricole, on est, bon, c'est des statistiques, à 2,5. Donc c'est...
Ouais, c'est fou.
C'est révoltant qu'un pays moderne comme la France soit à ce point touché. Beaucoup plus d'ailleurs que des pays moins modernes de l'Union Européenne, voilà, où les conditions de travail sont plus difficiles. Et pourtant, il y a plus statistiquement de morts chez nous.
Et oui, et donc là-dessus aussi, vous pouvez témoigner au 3210, nos standardistes Enzo, Margot, Cerise et Azad vous attendent. Et puis enfin, un enseignant qui veut rester anonyme, et on peut le comprendre, nous donne son sentiment sur cette plainte pour dénonciation calomnieuse qui sera déposée à l'encontre de la lycéenne de l'établissement Maurice Ravel.
C'est une très bonne nouvelle, ça va dans le bon sens et je pense que ça envoie un signal fort, même si l'État aurait dû être encore plus fort en maintenant le proviseur, en assurant la sécurité de cet établissement et en ne créant pas ce précédent que quelqu'un qui porte le voile puisse faire démettre un proviseur.
Et on ouvre d'ailleurs par ce sujet-là, Eric.
Oui.
Les auditeurs ont la parole avec vous, c'est tout de suite.
Tout à fait.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet.
Les menaces sont nées du fait qu'il y a eu ces accusations qui ont été portées. Il y a même une plainte qui a été déposée par cette jeune femme qui a été classée sans suite. Et donc j'ai décidé que l'État allait porter plainte contre cette jeune femme pour dénonciation calomnieuse. Ça me permet de rappeler que l'État sera toujours aux côtés de ceux qui sont en première ligne face à ces atteintes à la laïcité, face à ces tentatives d'entrisme islamiste dans nos établissements scolaires.
Alors ça, c'est Gabriel Attal, le Premier ministre, hier soir, dans le journal de 20h de TF1, il a annoncé que l'État, vous l'avez compris, va porter plainte contre la lycéenne qui a accusé le proviseur du lycée Maurice Ravel de violence. La jeune femme avait donc porté plainte, plainte classée, sans suite, mais depuis, le proviseur, victime de menaces de mort, a quitté l'établissement pour sa sécurité, et celle du lycée, a-t-il dit. Le débat est là, mesdames, messieurs, et je veux vous entendre sur ce sujet. Je me tourne, en attendant vos appels, vers notre spécialiste éducation RTL, Nerissa Emani. Bonjour Nerissa.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Et bravo parce que vous êtes parvenue à parler justement à cette jeune fille dont il est question là, et contre laquelle d'ailleurs Gabriel Attal a annoncé que l'État allait porter plainte.
Oui exactement, je lui ai parlé hier soir et elle n'a pas souhaité faire de commentaires justement sur cette plainte, mais elle maintient sa version des faits. Selon elle, le proviseur l'a violemment attrapée par le bras et secouée pour lui demander de retirer son voile alors qu'elle était dans la cour du lycée et s'apprêtait à obéir. Sauf que le chef d'établissement dément cette version. Il dit avoir posé la main sur l'épaule de l'élève qui l'ignorait et refusait d'enlever son voile. La plainte de la jeune fille a été classée sans suite, vous l'avez dit, mais difficile de savoir pourquoi. Il n'y a pas de caméra dans la cour du lycée, c'est donc parole contre parole. Aujourd'hui, la jeune femme a quitté le lycée, arrêté ses études. Elle regrette l'ampleur qu'a pris cette affaire et condamne fermement les menaces de mort contre son proviseur.
Merci Nerissa Emani, spécialiste éducation d'RTL. Jean-Pierre est avec nous. Jean-Pierre, vous êtes un ancien proviseur et vous sembliez me dire que vous comprenez que Gabriel Attal est annoncé qu'il allait porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre cette lycéenne, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Mais je suis vraiment choqué, effectivement, par l'information comme quoi le proviseur avait démissionné par crainte de représailles sur lui et puis sans doute sur ta famille. Je rappelle quand même ce qui s'est passé avec Samuel Paty, avec M. Bernard Halil et avec la principale du collège de Chenôve il y a la semaine dernière. Donc je comprends tout à fait sa décision, même si, l'intervenant précédent, je regrette qu'il soit arrivé à cette décision-là, mais à 2 ou 3 mois de la retraite, il ne voulait pas prendre de risques et je comprends.
C'est terrible. Maintenant, il y a des accélérateurs qui s'appellent les réseaux sociaux et qui donnent à des choses qui pourraient se régler dans le huis clos d'un établissement, qui donnent une démesure complètement folle. Restez avec nous, Jean-Pierre. Nous continuerons dans un instant. Véronique vient d'arriver également. Thierry vient d'arriver au 3210. Et vous, si vous souhaitez réagir, un seul numéro, le 3210 sur RTL, dans Les Auditeurs ont la parole.
Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210.
50 centimes la minute.
Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
Jean-Pierre, ancien proviseur, est-ce que vous ne pensez pas quand même, nous sommes toujours sur cette affaire de l'État qui porte plainte contre, pour dénonciation calomnieuse contre cette lycéenne. Elle a quel âge cette lycéenne? On a le droit de le dire, Nerissa et Manu.
Oui, elle a 19 ans.
Elle a 19 ans. Est-ce que vous ne pensez pas, Jean-Pierre, que c'est trop de porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre une lycéenne?
Ben écoutez, non, parce que on voit depuis un certain nombre d'années une montée lente et tournoise un peu de l'islamisme, et plus ça va, plus les incidences se multiplient. Au début, on nous disait dans les établissements, les rectorats et les inspections académiques disaient essayez de ne pas faire de vagues, etc. Et maintenant, ben il faut que les vagues elles commencent à arriver, et puis que les plaintes et puis des sanctions soient prises pour éviter ce genre de situations qui sont complètement inadmissibles.
Jean-Pierre, une question. Est-ce qu'on se sent seul quand on est proviseur, chef d'établissement? Vous n'êtes plus en poste, hein, je l'ai bien compris, mais face à ce genre de situation, on est abandonné par le cadre?
Alors, totalement. Totalement, et y a la solitude du chef d'établissement, c'est pas quelque chose de fictif.
Ne bougez pas, restez avec nous. Véronique est là, elle a fait le 32-10. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique.
Bonjour à tout le monde.
Qui est Véronique?
Alors, moi je suis à ESH dans une école.
ESH, c'est-à-dire, oui, accompagnant d'élèves en situation de handicap, c'est ça, hein?
Tout à fait, c'est exactement ça.
Est-ce que l'État, Véronique, est-ce que l'État dans une école... Vous êtes où d'ailleurs? Dans quel coin de France?
Ben, je vais éviter de le dire.
D'accord. Est-ce que l'État a eu raison, selon vous, de porter plainte contre cette lycéenne qui a accusé le proviseur du lycée Maurice Ravel de violence?
Oui, je suis d'accord avec le fait que l'État ait porté plainte. Mais je trouve que...
Faut quand même dire à ceux qui nous écoutent qu'elle avait porté plainte, Nerissa Imani, elle, la lycéenne, en premier lieu, et que la plainte avait été classée par la justice française, considérant qu'il n'y avait pas de quoi poursuivre
rapidement, en fait. Elle a porté plainte fin février, juste après l'altercation, et quasiment le lendemain, sa plainte a été classée sans suite, sans qu'elle soit informée, ni connaître le pourquoi.
D'accord,
alors,
Véronique.
Ça, c'est le minimum. Par contre, j'ai entendu ce matin que cette jeune fille, cette jeune femme qui a 19 ans, est animatrice dans à l'éducation nationale. Est-ce que j'ai bien entendu?
Oui, elle travaille dans une école maternelle, elle est en tant qu'animatrice.
Okay. Donc elle vient avec le voile maintenant?
Non, j'ai pas cette information-là, mais je pense pas qu'elle ait le droit de porter le voile dans l'enceinte de l'école.
Oui, Véronique, vous vivez dans l'établissement dans lequel vous travaillez, sur lequel vous souhaitez rester anonyme, ou en tout cas dans la ville dans laquelle vous travaillez, comme accompagnant d'élèves en situation de handicap dans les écoles. Vous vivez des situations comme ça où il y a des jeunes femmes qui tiennent à porter le voile et qui vont provoquer l'institution, entre guillemets.
Bien sûr. Et qui se permettaient l'année dernière d'arriver, soit disant que ce n'était pas des abayas, c'était des longues robes et ainsi de suite, mais que les proviseurs ou un principal adjoint les faisait changer de tenue, les parents s'offusquaient et ainsi de suite. Il y a eu des dépôts de plainte. Donc ça, comment vous dire, ça ne va que crescendo. C'est ça le problème. Donc là, moi je suis vraiment désolée pour ce proviseur qui est obligé de quitter l'éducation nationale alors qu'il n'y est pour rien. Il a juste fait respecter la loi. On ne rentre pas dans un lycée, dans une école, dans un collège, peu importe, avec un voile. Voilà, il faut quand même, au bout d'un moment, il faut qu'on se dise les choses. Et c'est lui qui est obligé. Alors on porte plainte contre lui, il y a des menaces de mort et c'est maintenant lui. Bon, certes, il est près de la retraite, mais c'est à lui de démissionner. Mais on tombe sur la tête.
Ne bougez pas, je crois que c'est Victor qui me fait signe et qui me dit nous avons un appel au 3210 dans les auditeurs, mais restez là. Hein. Jean-Pierre est toujours là, l'ancien proviseur, Véronique, l'accompagnante d'élèves en situation de handicap. Catherine est une professeure qui a été menacée déjà. C'est bien cela. Bonjour Catherine.
Bonjour. Oui, alors c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, Je peux exposer mon...
Oui, allez-y, je vous en prie.
Voilà. En 2010, j'enseignais déjà depuis 35 ans,
oui. hein,
dans un lycée professionnel de la banlieue parisienne. J'avais l'habitude, en classe, de ramasser les téléphones portables des élèves. Mmh. C'est-à-dire qu'ils devaient les placer dans une enveloppe à leur nom, et je mettais tout ça dans un gros casier, dans une armoire fermée. Mmh. Ce jour-là, un élève, parce que j'étais professeur principal, je savais qu'il était dangereux. Parce que, bon, il devait passer en justice, il avait, ses propres parents avaient porté plainte contre lui. Enfin bon, c'était un cas difficile. Jusque-là, ça avait été, malgré que tous les collègues me tombaient dessus à la récréation, parce que, comme prof principal, ben, vous récoltez tous les rapports que les collègues oui. font sur les élèves.
Il a fait ci, il a fait ça, il y en a marre, c'est plus possible.
Voilà, exactement. Donc, je vais vous dire, il y avait une pile de rapports sur...
Alors, accélérez un petit peu, Catherine, quand même. Hein,
d'accord, je vous ai... voilà. Donc, quand je lui ai demandé de placer son portable, il a refusé. Il a commencé à crier. Je lui ai demandé à ce moment-là, parce qu'en plus il y avait contrôle ce jour-là, d'aller en permanence parce que je ne pouvais pas accepter qu'il garde son portable. Et quand je lui ai dit, bah, écoutez, c'est quand même moi qui commande, parce que bien sûr il protestait et voulait surtout pas y aller, je lui ai dit, écoutez, jusqu'à présent, jusqu'à preuve de contraire, ici c'est moi qui commande, donc vous devez aller bon. Et c'est là où il m'a regardé. Alors évidemment, il était en colère, hein, il était menaçant. Il m'a regardé et il m'a dit, ici, oui. Et là, moi, je me suis sentie liquéfiée. C'est-à-dire qu'à la fois, comme je savais qu'en plus, il était quand même, c'était pas un ange, j'ai été littéralement liquéfiée, c'est-à-dire tétanisée. Je me suis assise. Alors, il a quand même quitté la classe parce que les autres, voilà, bon... Mais j'étais assise, je n'ai pas pu faire cours. Je me suis rendue immédiatement après chez l'approviseur et je lui ai dit, je ne peux plus. Parce que c'était intenable, c'est-à-dire on sentait une pression. Ce qui fait que j'ai eu le soutien de l'approviseur.
Oui, c'était ma question. Est-ce que vous avez été victime du fameux pas de vague à l'école, taisez-vous, pas de problème?
Alors, bon, en fait, le soutien que j'ai eu, on m'a conseillé, j'ai eu un rendez-vous avec les ressources humaines du rectorat, j'ai expliqué. Et j'étais, en fait, la psychologue que j'avais vue m'avait dit que j'étais en burn-out.
Ouais.
Parce que jusque-là,
cette affaire vous a terriblement secoué, en fait.
Ah ben, j'étais... Mais vraiment, juste deux mots, vous voyez, et un regard, enfin, un comportement. Oui.
Deux mots qui voulaient dire, ici, je ne vous,
ailleurs, je ne vous
agresserai pas dans l'établissement, mais ailleurs...
Exactement.
Ailleurs, ma cocotte, je ferai ce que je voudrais. Restez avec nous, Catherine, c'est très intéressant. C'est très intéressant. On n'est pas du tout sur le même sujet. Je veux dire, on n'est pas du tout sur la même menace et la même violence qu'avec le cas de cette lycéenne, mais finalement, ça nous renvoie à plein de questions liées à l'école. Le pas de vague, le soutien par le rectorat, la violence dans les salles de classe. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
Éric Brunet vous donne la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Oui, bonjour, c'est Bernard. Réagit de ce voile et de ce proviseur qui a démissionné. Tout à fait d'accord avec la plainte qui a été déposée. Nous sommes dans un pays laïque et les règles doivent être respectées pour tout le monde.
Ouais, c'est un sujet qui fait l'unanimité. Hein. C'est assez étonnant d'ailleurs. Parfois, il y a beaucoup de débats à l'antenne et là, sur ce professeur qui a été obligé de partir précocement à la retraite parce que ses menaces de mort, il ne les supportait plus. Et surtout, elle mettait en danger l'établissement scolaire. Eh bien, vous êtes très nombreux à dire l'État a eu raison de porter plainte contre la lycéenne. Enzo, des messages écrits au standard?
Tout à fait. Bonjour Eric.
Bonjour
à tous. Beaucoup de réactions sur notre répondeur et sur notre page Facebook. Facebook. Nos internautes sont plutôt unanimes, à l'instar de Serge qui nous écrit « Oui, je soutiens Monsieur Attal dans cette décision. J'espère que cette étudiante sera sévèrement punie. » Après 14h, nous parlerons des médiums et des voyants. Chaque année, près de 3 millions de personnes se laissent séduire par une consultation. Est-ce votre cas? Si oui, pourquoi? Nous attendons vos témoignages au 3210.
Voilà, beaucoup de thèmes aujourd'hui. Hein. On va prendre Rodolphe, il a fait le 3210. Bonjour Rodolphe, qui êtes-vous?
Bonjour. Voilà, je suis très content de passer à l'antenne. Voilà, je suis enseignant.
D'accord. Dans quel coin de France? En région parisienne? Dans le nord? Dans le sud?
Rueil-Malmaison, pas très loin de lui.
D'accord. Quelle est votre position? Est-ce que vous comprenez d'abord, pourquoi appelez-vous? Vous comprenez que l'État...
L'État, un, je comprends. Deux, je suis ulcéré du fait que le proviseur, pas un professeur, proviseur, donne sa démission pour partir. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, Eric, c'est comme les jeunes gens qui sont harcelés dans une classe, d'accord? Alors, les pauvres enfants qui sont harcelés dans une classe, on leur demande, il y a eu plein de trucs déjà, on leur demande de changer de collège ou de lycée, et les harceleurs, ils restent dans le lycée, d'accord? Moi, je trouve ça dingue, parce que ceux qui sont harcelés devraient rester dans leur établissement, et on devrait punir les harceleurs. Mmh. Et donc là, en fait, vous avez un proviseur, un fonctionnaire à la tête d'un lycée qui doit se barrer. Moi, je trouve ça dingue.
Mmh. Nerissa et Mani, restez, hein, Rodolphe.
Je tiens à faire quelques précisions parce qu'en fait, à aucun moment, le proviseur n'a démissionné. Mmh. En fait, il a fait part de son sentiment d'insécurité au rectorat, qui a pris la mesure des choses, qui lui a proposé de partir en retraite anticipée. Et finalement, c'est d'un commun accord qu'ils ont décidé de ça pour que le proviseur se sente mieux. Et finalement, on est à l'encontre de ce pas de vague qu'on reproche beaucoup au rectorat et à l'éducation nationale. Au contraire... là, il y a des décisions qui sont prises, des actions pour mettre en sécurité une personne. Voilà.
Il devait partir cette année d'ailleurs à la retraite, ce proviseur, et il est parti de façon anticipée, ou peut-être qu'il occupe d'autres fonctions administratives en attendant son départ à la retraite. Mais vous avez raison de préciser ça, Nerissa, mais quand même, Rodolphe a un peu raison, car symboliquement, il abandonne, entre guillemets, son bureau avec son nom, vous savez, écrit sur la porte. Il n'est plus là, il s'en va, victime de menaces. Donc
je trouve ça triste. Ouais. Sincèrement, Eric, je trouve ça triste. Voilà, je trouve ça triste. Ça donne raison aux harceleurs, ça donne raison aux gens qui menacent. Enfin, j'arrive pas à comprendre. Alors, que ce soit de son fait ou du fait de l'administration, bon, je ne vais pas débattre, hein, mais... Je trouve ça triste.
Il y a quand même une plainte qui a été déposée par l'État, ça n'est pas rien. La jeune femme que vous avez eue au téléphone, Nerissa Emani, je ne sais pas, enfin, je ne voudrais pas rentrer dans une polémique à trois sous, mais elle vous a semblé être une jeune fille qui avait souvent des problèmes à l'école, parce qu'il y a des cas qui sont épouvantables, qui sèment la zizanie du matin au soir, etc. Ou plutôt une élève calme?
Plutôt calme, très intimidée par tout ce qui se passe. Elle me l'a dit hier, hein, elle n'a jamais eu de rendez-vous avec un directeur d'école, un proviseur de toute sa vie scolaire, finalement. Donc, elle a été très impressionnée et elle a été très impressionnée aussi par l'ampleur que ça a pris, notamment dans les médias, où ses propos ont été rapportés maintes et maintes fois et parfois même transformés.
Thierry a fait le 3210. Bonjour, mon cher Thierry. Qui êtes-vous?
Bonjour à tous, bonjour, je suis Thierry de Mandelieu.
De Mandelieu, dans le sud, Mandelieu-la-Napoule. Vous avez fait le 3210, je vous écoute, mon cher Thierry.
Tout à fait, écoutez, moi je suis complètement d'accord sur la plainte de l'État qui a été déposée. Simplement, c'est qu'à un moment donné, il va falloir arrêter, excusez-moi le terme, de baisser son pantalon. Je trouve complètement malheureux que ce proviseur doit partir en retraite anticipée. À cause de ça. Donc, qui dit retraite dit perte de salaire. Ce pauvre homme va perdre de l'argent parce que...
On n'est pas sûr de ça. Parce qu'apparemment, il a le soutien pour une fois. On a souvent dit que le pas de vague, etc. Là, Nerissa, le rectorat est avec lui quand même.
Complètement.
Hein.
D'accord. Complètement.
Bon, à la limite, ça c'est un côté financier. Maintenant, moi je me pose la question. On a dit tout à l'heure que cette personne qui est arrivée avec le voile, donc normalement, il y a une loi qui précise bien qu'on ne rentre pas à l'école, au lycée, à la fac avec un voile. Elle dit qu'elle était prête à l'enlever. Alors pourquoi venir avec ?
Alors elle s'apprêtait, je suis désolée de vous couper monsieur, elle s'apprêtait à sortir de l'établissement et pour donner la précision pour que tous les auditeurs l'aient, en dessous de son voile, elle porte un bandeau qui s'apparente à un bonnet. En fait, elle a remis le bonnet et elle allait remettre le voile par-dessus. Alors oui, avant de sortir de l'établissement, ce qui est interdit dans la cour du lycée, mais en revanche, elle n'avait pas l'intention d'avoir le voile à l'école ou dans les salles de cours, quoi.
D'accord.
Ouais. C'est, ça a été dit après qu'il y ait une plainte qui a été posée contre elle. À la base, elle vient quand même avec un voile sur la tête, même si elle va l'enlever ensuite. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ça commence à monter, cette solidarité que nous avons entre nous. Aucun racisme dans mes propos, attention de ce qui va suivre. C'est qu'il y a une telle solidarité des gens de confession musulmane par rapport lorsqu'il arrive des cas comme ça dans des écoles. On a déjà eu deux morts, deux étudiants morts. D'enseignants.
Pas forcément. Il y a pas de solidarité. Il y a peut-être une solidarité de ceux qui veulent aller provoquer la puissance publique, l'État, les proviseurs, etc. Mais il y a une immense majorité des enfants et des familles musulmanes de France qui se battent pas sur la question du voile à l'école. Hein,
Thierry. Au niveau médiatiquement parlant, on en parle un petit peu moins.
C'est-à-dire qu'il y a une solidarité de ceux qui veulent provoquer.
Oui, c'est
Et les condamnations ont été unanimes sur la question. Ouais. Voilà,
vous avez vu d'ailleurs, Thierry, vous avez vu hier quand même que Gabriel Attal, dans son interview sur TF1, a dit le pas de vague, c'est terminé avec moi. On a l'impression qu'il est toujours ministre. Au passage, on se demande, Nerissa, qui est le ministre de l'Éducation nationale, parce que hier, il a parlé comme s'il était toujours le ministre.
Repris la main une fois de plus.
Ouais, ouais. Thierry, vous avez le micro.
Comme vous disiez un témoignage précédent, effectivement, on n'osait rien dire de peur de faire des vagues. Et à un moment donné, c'est vrai que bien sûr, tout rejoint le racisme. Si et ça, c'est pas une question de racisme, mais pas faire de vagues pour pas choquer ou offenser. Donc à un moment donné, effectivement, il faut qu'il y ait une solidarité. Il y a des lois qui existent pour éviter justement des problèmes comme ça, des meurtres malheureusement comme des enseignants ont eu lieu. Il y a une loi, dans les écoles publiques, il n'y a pas de religion, qu'elle soit chrétienne, juive ou musulmane, donc on ne doit pas afficher quoi que ce soit au niveau de la religion et il n'y aura pas de souci.
Merci mon cher Thierry de Mandelieu, merci Catherine, merci Rodolphe, merci Véronique, merci Nerissa d'être venue avec nous dans le
merci
studio.
Merci Eric, pour donner une dernière précision pour nos éditeurs, la plainte sera déposée par le rectorat de Paris.
D'accord, le rectorat de Paris. Bien, dans un instant scandaleux, la France, cinquième puissance du monde, est parmi les pays les plus mal classés pour le nombre des accidents de travail. Appelez-moi au 3210. Avez-vous été victime d'un accident de travail ? À tout de suite.
Éric Brunet vous donne la parole sur RTL.
Brunet.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
La génération a un certain nombre de combats à mener, celui de la transition écologique, et il y a celui de la qualité
les expérimentations
de vie
que vous avez
au travail. On a trop d'accidents au travail en France. On a trop de Français qui meurent au travail. Je crois qu'en moyenne, la statistique, c'est 2 par jour. On ne peut pas accepter cette situation. On doit mieux prévenir les accidents du travail et on doit améliorer la qualité de vie au travail, les conditions de travail des Français, notamment ceux qui ont les métiers les plus pénibles.
Alors là, c'était le Premier ministre Gabriel Attal hier soir au journal de 20h de TF1. Bon, je dois vous dire, et je fais mon mea culpa de journaliste, que j'ignorais que la France était à ce point si mal classée pour les accidents du travail. Vous imaginez, il y a 27 pays en Europe. La France est un des pays les plus puissants, cinquième puissance du monde. Enfin voilà, il y a des pays d'ailleurs qui ont un droit social en Europe qui est beaucoup plus archaïque que le nôtre. Bon, et bien malgré cela, la France, pays moderne, pays sophistiqué, seul pays d'Europe qui a la bombe atomique, la France quoi, eh bien nous sommes... Allez, nous sommes un des pays les plus mal classés pour les accidents du travail et c'est absolument dramatique. Victor est avec nous, il remplace Lisa Marie qui a pris 2-3 jours. Victor, les chiffres sont assez édifiants.
Oui, les chiffres sont édifiants. Rendez-vous compte 2 morts par jour en lien avec un accident du travail. La France est sur le podium des pires élèves en Europe. 661 décès en 2023 derrière l'Espagne, 722 et l'Italie 916. Oui, en 2019, on était quand même les premiers en Europe.
En 2019, il y a 5 ans, on est le pays d'Europe qui a le plus d'accidents du travail.
Tout à fait.
C'est dingue. Et on ne compte pas, parce que c'est déclaré dans des caisses différentes, les morts qui sont déclarées à la MSA dans le monde agricole, c'est 150 en plus de vos chiffres. Donc vous voyez qu'on est peut-être même toujours les premiers d'ailleurs.
Et au-delà des morts, il y a quand même 564 000 accidents du travail, mais donc sans décès à la suite. Et ça reste énorme.
Ça reste énorme. Arnaud a fait le 32-10. Merci Victor. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Je vous écoute. Qui est Arnaud ?
J'ai 35 ans, j'habite en Île-de-France et j'ai eu un accident de travail en novembre 2016.
Que vous est-il arrivé ?
Je suis tombé d'un toit.
D'accord. Vous étiez en train de travailler sur ce toit ?
Ouais, j'étais en train de travailler, on était en train d'installer des guirlandes de Noël. Et donc l'échelle a glissé et je suis tombé avec l'échelle.
D'accord. Vous faites quoi comme métier ? Vous êtes...
Je faisais de la maintenance pour une grande chaîne de restauration rapide.
Que vous est-il arrivé après ? Médicalement, qu'est-ce que vous vous êtes blessé
Le dos. J'ai fissuré une vertèbre, j'ai eu des hernies discales, j'ai une sciatique à longueur de temps et je sens plus rien dans la jambe gauche.
Ah oui, quand même, vous êtes sérieusement moché, Arnaud. Vous avez des séquelles, je veux dire, durables.
C'est ça.
Ouais. Vous avez repris le travail, vous vous êtes mis... Quel a été votre statut ?
J'ai été licencié en 2022. Que ça a duré très longtemps, mon accident de travail, ça a duré très longtemps, les soins, tout ça. J'ai été licencié en 2022 et donc depuis, j'ai monté une structure parce que je peux pas continuer à travailler dans ce que je faisais. Donc ouais. J'ai créé ma société pour pouvoir faire ce qui me passionnait, c'est-à-dire mon métier, le bâtiment, quoi.
Oui. Et vous faites quoi ? Vous faites de la
rénovation. De la gestion de chantier maintenant, ouais.
De la gestion de chantier, d'accord. Bon, ça vous a obligé à vous reconvertir. Qu'est-ce que vous voudriez dire à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur la prise en charge de l'accident de travail, les relations que vous avez eues avec votre employeur après, ça s'est passé comment? Moi, je découvre ce monde des accidents de travail et j'ignorais qu'on était à ce point aussi mauvais en France. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Arnaud?
Très mal, déjà, parce que faut savoir, c'est quand on est en accident de travail, on tombe, moi, j'étais avec mon collègue. Il n'y a eu aucune enquête tout de suite. Rien ne s'est fait. J'étais en accident de travail. Ils n'ont pas cherché plus loin. Et ça a duré. Et au bout d'un moment, j'ai vu que j'allais récupérer zéro. Enfin, j'allais avoir des séquelles à vie. Les médecins m'ont dit. Et donc, du coup, j'ai attaqué mon employeur. Et quand j'ai attaqué mon employeur pendant plusieurs années, il ne s'est rien passé. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas de conclusion à chaque fois qu'ils venaient au tribunal. Et du jour au lendemain, il y a eu des attestations des salariés. De la société en disant qu'on avait une réunion par rapport à la sécurité, tout ça. Donc des fausses attestations, parce que voilà. Mais et le temps de procédure est très très long. Je passe qu'en 2025 au tribunal.
Ah oui, et l'accident a eu lieu quand ?
En novembre 2016.
Presque 10 ans. Donc vous n'avez rien touché depuis 10 ans ?
J'ai été en accident de travail donc jusqu'en 2022, donc j'ai touché jusqu'en 2021. Après, j'ai été consolidé par l'assurance maladie,
ouais.
Qui voulait plus me rémunérer alors que j'étais encore en soins. Hein. Je voyais des praticiens après avoir été consolidé quand même. Mmh. Donc ça a été mal fait. Et après, j'ai demandé à être licencié parce que financièrement, je pouvais plus. Je suis resté 16 mois sans salaire, donc c'était plus possible.
16 mois sans salaire.
Ouais. Et pas un euro de personne. C'est... Mmh. Personne. Donc, du coup, j'ai demandé à être licencié. Et puis après, du coup, j'ai été un petit peu au chômage et après, j'ai monté ma société.
10 ans, attendre 10 ans pour savoir comment la prise en charge de ce drame qui survient dans une vie, parce que ça change la vie. Hein. C'est quand même c'est très long. Hein. Bougez pas, Arnaud, je vais prendre d'autres appels au 3210, notamment Véronique. Bonjour, Véronique.
Oui, bonjour.
Qui est Véronique et pourquoi, Véronique, nous appelez-vous ?
Alors, bonjour, je suis Véronique Millot. Je suis la maman d'Alban Millot, qui est décédé au travail en mars 2021, le jour de ses 25 ans. Comme Arnaud, il est tombé d'un toit. En fait, il est passé à travers ce toit sur lequel il a installé des panneaux solaires et sa chute, par contre, lui a été fatale. Voilà. Donc, nous, on a attendu à peu près 2 ans les résultats de l'enquête de l'inspection du travail. Et puis, nous avons eu un premier procès en juin l'année dernière, pour lequel l'employeur a été condamné et il a fait appel. Et nous repassons en appel le 3 avril, d'ailleurs.
Est-ce que l'employeur, selon vous, avait tout mis en œuvre pour les conditions de sécurité ? Parce que quand on est une entreprise qui installe des panneaux solaires sur les toits, j'imagine qu'on réfléchit aux conditions de sécurité.
Alors non, justement, c'est pour ça qu'il a été condamné, puisqu'il n'avait respecté quasiment aucune des règles de sécurité qui s'imposent lorsqu'on fait ce genre de chantier. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'échafaudage, il n'y avait pas de... Ils avaient des baudriers, mais qui étaient faits pour des nacelles, alors qu'ils n'utilisaient pas de nacelles. Enfin voilà, il y a toute une liste de manquements pour lesquels il a été condamné. À de la prison ferme, hein, d'ailleurs, en première instance. Je le précise que c'est quand même extrêmement rare. Et on espère qu'en appel, cette peine sera confirmée. Depuis, nous, on est avec mon époux, nous sommes rentrés dans un collectif qui est devenu une association dans laquelle je suis vice-présidente. C'est le collectif Famille Stop à la mort au travail.
Stop.
Et on a Stop à la mort au travail.
Stop à la mort au travail. Je le répète pour que les gens qui nous écoutent puissent le trouver éventuellement.
Voilà. Mmh. Et ce collectif, cette association, aujourd'hui, depuis un an, on essaye d'interpeller les élus, les gouvernants. On a eu plusieurs rencontres avec le ministère du Travail pour alerter sur le fait que on a de plus en plus de morts au travail, des accidents qui sont souvent dus à des manques de sécurité, c'est pas la fatalité. Et puis surtout, on cherche à briser ce silence, ce déni qui existe aujourd'hui autour de la mort au travail, parce qu'il faut pas trop en parler, ou alors c'est un peu comme une fatalité, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des métiers à risque, donc fatalement il peut y avoir que des morts.
C'est très intéressant, restez avec nous, Véronique, c'est très intéressant. Tout à l'heure, en préparant cette émission, quelqu'un me disait dans la rédaction d'RTL, dans les journaux, on dit pas accident du travail, mort au travail, on dit fait divers. C'est un fait divers. Il est tombé du toit, c'est un fait divers. Or, il faudrait se réapproprier cette terminologie, ce terme. C'est un accident du travail. À tout de suite.
Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210. 50 centimes la minute.
Excusez-moi. Bon vent, mon GG. Toi, le flic chevronné, des contrôles et vos papiers, s'il vous plaît. Toi qui, après 38 ans de bons et loyaux services, tire enfin sa révérence. Et oui, à partir du 1er avril, c'est aussi la fin des cartes vertes. Comme notre GG, c'est un bout du vieux monde qui part à la retraite. Léo Care, l'assurance auto, 100% mobile, 0% paperasse. Retrouvez votre carte verte directement sur l'application Léo Care. RTL.
Vous,
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Oui, bonjour, c'est Hervé. Voilà, moi, j'ai eu un accident du travail en 2011. J'ai été arrêté 6 ans à cause de mon épaule. Et après, j'étais mis en retraite. Mais je trouve que c'est vrai qu'en entreprise agricole, tout ce qui est milieu agricole, il y a beaucoup d'accidents du travail.
Ouais, 150 chaque année morts dans le monde agricole, déclarés par la MSA, les amis. Hein, donc c'est des chiffres considérables. Véronique, je le rappelle que vous êtes la maman d'un jeune homme de 25 ans qui est décédé en tombant d'un toit. Quand ça vous arrive, vers qui vous vous tournez, Véronique?
Personne, je pourrais vous dire. En fait, c'était un choc tellement énorme déjà de perdre un enfant, mais bon, on peut dire aussi pareil d'un époux. Enfin, on s'attend pas, si vous voulez, à perdre quelqu'un au travail. C'est un choc énorme et vous êtes livré à vous-même. En fait, on a été reçu par la brigade de gendarmerie. On a porté plainte parce qu'ils nous l'ont conseillé, mais vous savez très peu de choses. Après, bien sûr, les langues se délient dans l'entreprise. Les gens nous ont contacté, mais au niveau on n'a pas eu d'aide de quelle qu'elle soit. On a décidé de nous-mêmes de prendre un avocat. On est allé voir un psy, mais c'était vraiment notre propre chef. Hein. C'est pas. Alors il y a des régions hein, où on peut vous orienter vers un psy, mais non, vous êtes livré à vous-même. Vous vous retrouvez confronté à un monde que vous ne connaissez absolument pas. Des enquêtes. Enfin voilà.
Qu'est-ce que ça vous a fait hier soir qu'un premier ministre s'empare de ce sujet des accidents du travail?
Eh bien, écoutez, c'est pour nous, c'est une bonne chose déjà qu'ils mettent ce problème en lumière. Parce que nous, ça fait quand même plus d'un an qu'on se bat pour qu'il arrive dans la lumière. Qu'il en parle à une heure de grande écoute, c'est très bien. J'espère qu'il va concrétiser, si vous voulez, parce que il parle de prévenir les accidents du travail, alors qu'aujourd'hui, il y a quand même des moyens de prévention qui sont quand même assez développés. Mais moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'ils comptent faire pour empêcher les employeurs qui ne respectent pas
ces... Mais oui, c'est ça, qui était, parce que
c'est ça le problème.
Votre histoire, voilà, c'est quand même l'histoire d'un employeur qui a été condamné à de la prison ferme et voilà. Dans une activité qui a le vent en poupe maintenant. Hein,
en plus.
Parce que, hein, franchement, installer des panneaux solaires, il y a des publicités partout. Bon, restez avec nous, Véronique. Je voudrais prendre Nadège qui m'appelle également. Bonjour, Nadège.
Bonjour.
Qui est Nadège ?
Je suis retraitée, j'étais mariée depuis 78. On rêvait de notre retraite ensemble. Il y a 10 ans et demi, mon mari est revenu de déplacement. Dans l'entreprise de bâtiment, on lui a dit, voilà, il y a une façade à faire parce que les autres avaient refusé de le faire. Tu le fais ou on te licencie. Comme il a dit, en plaisantant, il a dit, comme d'habitude, c'est encore le vieux qui va le faire. Donc, on n'a pas été lui chercher d'habits de protection. On lui a dit, tu mets ton habit de pluie, ton casque, des gants, un masque en papier, et tu pulvérises ce produit sur la façade pour nettoyer. Il l'a fait, bête et discipliné, il l'a fait. Il a fait ça au mois de juin. Fin juin, il a eu le hoquet. Et il s'est pas senti bien, il était un peu fatigué. On a fait une prise de sang, des examens, comme on faisait d'habitude. Il n'y avait rien. Début juillet, il a passé une radio. Il y avait un point, comme une pointe de crayon de bois, qui apparaissait sur sa vessie. Mmh. Et puis c'est tout. Bon, et ils ont dit, on va refaire une radio pour voir. 8 jours après, ça avait déjà pris une ampleur phénoménale. Le produit qu'on lui a fait pulvériser sur la façade ne devait pas être pulvérisé au Karcher. Il ne fallait surtout pas, c'était danger de mort. On lui a fait faire.
Et
les personnes qui ont passé dans la rue en ont respiré. Les personnes qui passaient dans la cour pour entrer dans le bâtiment en ont respiré. Lui, mon mari, il a eu 15 jours d'arrêt maladie. Au bout de 8 jours, on est allé à la polyclinique, il se sentait mal. On lui a fait d'autres examens. Ça avait pris une ampleur phénoménale en lui. Mmh. Et le 28 juillet, il rentrait à 21h à la polyclinique. Le 31, il décédait dans mes bras. Et il a bénéficié d'aucun traitement parce qu'il ne savait pas ce qu'il l'avait empoisonné. Voilà.
Nadège, est-ce que les médecins, je ne parle même pas de l'employeur, hein, les médecins ont fait le lien direct ou est-ce que c'est vous qui le faites ? Est-ce que les médecins ont dit c'est lié à cette substance chimique, elle est dangereuse ? Expliquez-moi.
C'est mon mari qui a dit qu'il avait pulvérisé du produit avec aucune protection. Lui, il l'a dit.
Mais est-ce que les médecins ont dit, voilà, ce produit qui l'a tué ? Ça, c'est important.
Oui. Et ils ont dit, c'est ce produit qui l'a tué, mais on ne sait pas quel produit.
Ah d'accord. Voilà. Et l'employeur ?
Ben, l'employeur, il a eu quelques petits soucis parce que fin août, j'ai vu un enquêteur de la CPAM arriver.
Oui.
Il voulait absolument voir mon mari parce qu'il avait un tout petit point d'amiante sur un lobe de poumon. Il m'a dit, je veux voir monsieur. Ben, je dis, vous ne pouvez pas. Il m'a dit, si, il faut que je le voie, madame. Je lui dis non, il est décédé. D'abord, il n'en revenait pas, le monsieur.
Mais vous avez bien une maladie à mettre sur un nom, un mot, sur une substance chimique ?
Rien.
Et tout le monde considère que c'est lié à la respiration de ce produit aujourd'hui ?
Ah oui. L'étiquette, d'abord, je l'ai gardée avec un petit mot qu'il avait fait.
Oui.
Il avait quand même pris l'étiquette du bidon. Et quand il y a eu l'enquête, tous les bidons ont disparu.
Ouais, encore une fois, la question de l'employeur, mesdames, messieurs. La question de l'employeur, c'est toi qui vas le pulvériser et votre mari qui dit c'est encore le vieux qui va s'y coller. Voilà. Et la question de l'employeur. Restez avec moi au 3210, d'autres appels. Je suis sidéré de découvrir que il y a autant de décès liés à des accidents du travail et que ce soit si mal pris en compte dans notre pays.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
Vous imaginez l'année dernière 564 000 accidents du travail en France. 564 000 et environ un millier de morts quand on compte les accidents sur la route pour se rendre au travail. Les morts du secteur agricole et les 660 morts chaque année reconnus par la Sécu. Oui, ça fait un petit millier quand même, hein. Ce qui est énorme. Petit millier, j'enlève le petit, s'il vous plaît. Ça fait un millier de morts et c'est terrible. Candice, bonjour Candice. Qui est Candice ?
Oui, bonjour. Alors Candice Carton, donc moi j'ai perdu mon grand frère Cédric à l'âge de 41 ans. Il a été frappé par une pierre suite à un tir de mine dans une carrière.
Un tir de mine dans une carrière, oui.
Oui. Il faisait le plein sur une machine, sur une raboteuse minière, et il était a priori à 400 mètres du tir de mine, et il a été frappé au niveau de la gorge et du thorax, qui était enfoncé à peu près 20 centimètres.
Comment vous a-t-on appris ce drame ?
Alors, on ne nous l'a pas appris, on l'a découvert comme par hasard sur Facebook. Tout à fait par hasard.
Comment, c'est votre frère et vous avez découvert ça sur Facebook ?
Voilà, tout à fait. Ma belle-sœur est tombée sur un poste de la radio locale qui annonçait un décès à la carrière d'un homme d'une trentaine d'années. Et en fait, elle ne s'est pas dit que c'était notre frère. Elle s'est juste dit que voilà, c'était la carrière. Et voilà. Donc, elle a montré à mon petit frère. Et de là, on a regardé les commentaires. Enfin, il m'a appelé pour me dire « je crois que ». Et on a regardé les commentaires, on a posé des questions. Personne ne nous répondait clairement. Mmh. Et ce à quoi j'ai fini par lui dire je vais appeler la gendarmerie, au moins on sera fixé. Et c'est 11 mois après que j'ai tilté que j'avais pas eu le réflexe d'appeler mon frère pour savoir s'il allait bien. Voilà, et c'est moi qui l'ai appris à ma maman le soir après avoir tourné à peu près une demi-heure.
Donc il s'est pris une projection de pierre à 400 mètres de l'endroit où avait eu lieu l'explosion alors qu'il faisait le plein d'un engin.
Voilà.
Ouais. Bon, alors là, j'imagine qu'on est sur une activité très particulière avec des gens qui font exploser des pierres. J'imagine que l'entreprise a répondu présent.
Alors absolument pas. Quand on est allé récupérer les affaires de mon frère quelques jours après, le directeur de la carrière ne nous a pas reçus parce que texto, on m'a répondu que ce n'était pas possible, il n'était pas disponible et ce n'était pas prévu. Voilà, il a fallu que je m'énerve sur le parking de l'entreprise pour qu'il daigne montrer sa tête blanche. Voilà, et en fait, j'étais tellement énervée en fait de cette réponse et de la situation en soi, que en fait, il n'y a pas clairement eu d'entretien avec lui. De toute façon, il savait pas quoi dire, hein, il était tout penaud et voilà. Je lui ai juste dit que je le lâcherais pas s'il était responsable de l'accident de mon frère.
Vous avez fait quoi sur le plan juridique ? Vous avez déposé plainte ?
J'ai voulu déposer plainte à deux reprises quelques mois après parce que, comme le disait Véronique, on est complètement livré à nous-mêmes. Hein. C'est vraiment le désert, c'est chaotique et on savait pas trop quoi faire. Est-ce qu'il fallait attendre la fin de l'enquête ? Est-ce qu'on pouvait déposer plainte ? Mais non, on n'a absolument pas été dirigé. Et face au silence de la gendarmerie, une fois l'enquête terminée, quand j'ai demandé quelles étaient les conclusions, maintenant je vais déposer plainte. Et là, on me l'a refusé à deux reprises.
Comment ça ? On refuse alors, de porter plainte, de déposer
première
plainte.
La première fois, je suis allée à la gendarmerie du lieu d'habitation de mon frère. Donc, on racontait ce qui s'était passé. Et je disais qu'on venait, du coup, donc j'étais avec ma maman, je disais qu'on venait pour déposer plainte. On m'a dit oui. Le gendarme est parti dans l'autre pièce, voir, je ne sais pas, un responsable d'un collègue. Et il est revenu en me disant, non, il faut aller à la gendarmerie qui est allée sur les lieux d'accident. Bon, je ne comprends pas trop bien parce qu'on me dit oui. Et puis après, on me dit, non, allez plutôt là-bas. Attendez,
Candice, cette affaire est trop grave, restez avec nous, parce que je m'étonne qu'on puisse, Jean-Alphonse Richard, on a le droit il vient de rentrer dans le studio, Jean-Alphonse, on a le droit de déposer plainte dans n'importe quel commissariat de police.
Complètement, et on peut même le faire aujourd'hui sur Internet, ouais. Selon la gravité des faits, mais effectivement, on peut déposer...
Donc si j'étais victime d'une agression, par exemple, à Brest, je peux déposer plainte à Lorient.
Complètement, et ouais. On prendra effectivement le lieu de... où les faits se sont passés et ça sera transféré, mais vous pouvez déposer en urgence dans un commissariat le plus proche.
Très bien. Candice, restez avec nous. On va continuer de parler de ce scandale des accidents de travail, des décès sur le lieu de travail. Et dans les quatre histoires qu'on vient de me raconter, quatre défaillances d'employeurs qui, en gros, nous la jouent courage, fuyons. Jean-Alphonse, de quoi parlons-nous à 14h30?
Alors, on va aller à Ambérieu-en-Bugey, c'est dans l'Ain, avec la disparition en 2016 de Anne-Charlotte Poncin. Elle avait 30 ans et elle était mariée à une femme de son âge, Margot Olivier. Margot Olivier va raconter que Anne-Charlotte, finalement, elle s'est suicidée. Elle va mettre du temps à avouer qu'Anne-Charlotte s'est suicidée et qu'elle a transporté le corps. Elle ne peut pas dire où elle a transporté ce corps. Puis, elle va se rétracter, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de vérité. Elle va dire les gendarmes m'ont forcé à faire ses aveux. Moi, je n'y suis pour rien dans cette histoire. 7 ans plus tard, le crâne de Anne-Charlotte va être découvert dans une forêt, mais ça ne changera pas beaucoup le fil de l'enquête. Alors, c'est une affaire qui est très étonnante parce qu'on a une suspecte numéro 1. On a des aveux, mais qui auraient été extorqués. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet appartement? De quoi est morte véritablement Anne-Charlotte Poncin? Eh bien, ses parents aimeraient bien le savoir. Ils continuent à demander la vérité. C'est le secret des mariés d'Ambérieu-en-Bugey dans l'heure du crime, tout à l'heure, 14h30.
Nous serons là dans un instant, le rappel des titres, dans un instant également, la France championne des accidents de travail. À tout de suite.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. RTL.
RTL, il est 14h. Et voici le rappel des titres avec vous, Victor. On parle du Haut-Vernais qui revit aujourd'hui la disparition du petit Émile.
Oui, pour tenter de percer le mystère de sa disparition, le 8 juillet dernier, sa famille, des voisins et témoins, au total 17 personnes sont convoquées pour une mise en situation 9 mois après le début de l'enquête. L'accès au hameau du Haut-Vernais est restreint jusque demain matin à 8h.
Et puis ambiance tendue au congrès de la FNSEA, congrès qui s'est réuni aujourd'hui à Dunkerque.
Et malgré les huées, le ministre de l'Agriculture a promis que le gouvernement tiendrait ses engagements pour le versement des aides.
Je prends l'engagement devant vous de faire tout pour accélérer les procédures. On n'est pas dans le calendrier, on est dans le calendrier qui est classique. On a besoin de l'accélérer et je ferai tout avec l'agence de services de paiement pour faire en sorte qu'on accélère les paiements.
Et puis on rappelle que le congrès de la FNSEA se terminera dans la soirée.
Et puis on l'a appris tout à l'heure, l'origine des plats préparés reste bien mystérieuse en France.
Et Pierre Herbulot vous en parlait dans le journal de midi, 69% des ingrédients contenus dans les plats préparés sont inconnus. Dans le détail, pour près de la moitié, l'origine n'est pas mentionnée. Pour 22%, l'origine reste floue avec une mention origine UE ou origine non UE. Autrement dit, nous ne connaissons pas la provenance que d'un petit tiers des aliments présents dans nos plats préparés.
Et puis un petit point, Victor, sur la météo.
Le temps sera toujours très instable demain avec beaucoup de nuages, de rares éclaircies et des averses. Elles seront plus fréquentes dans les Pyrénées et du Massif central et à la Lorraine. Le ciel sera plus dégagé dans le quart sud-est et sans pluie. Le vent atteindra 100 km/h sur le relief pyrénéen, 80 sur le littoral méditerranéen. Les températures en baisse. Le matin, 6 à 11 degrés en général, 11 à 15 près de la Méditerranée. L'après-midi, 10 à 14 degrés dans la moitié nord, 14 à 20 dans la moitié sud.
Merci Victor Darcas, merci beaucoup. Et nous reparlons de tous ces décès, ces accidents de travail, accidents, blessures, mais aussi décès, disparitions. Dans un instant, nous serons avec Candice.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet. Donc Candice, après la disparition de votre frère, il avait, vous m'avez dit, 41 ans au moment,
41 ans, oui.
Au moment où il est mort, victime d'un tir de mine dans une carrière, un éclat de pierre qui est venu le frapper à la tête alors qu'il était à 400 mètres. Donc l'employeur se dérobe, vous voulez après l'enquête porter plainte, la gendarmerie vous dit « Ah non, c'est pas ici ». Donc vous allez tenter une deuxième fois de porter plainte, c'est ça?
Oui,
Donc je vais à la gendarmerie qui est allée sur les lieux de l'accident et là on refuse mon dépôt de plainte en prétextant que comme l'enquête est terminée, je ne peux plus déposer plainte. Ce à quoi je réponds qu'il n'y a pas encore, le délai n'est pas encore prescrit et je réponds ce que on disait juste avant que enfin ils avaient une belle affiche rouge sur laquelle c'était noté qu'on pouvait déposer plainte où on voulait et quand on voulait dans n'importe quelle gendarmerie et que la gendarmerie avait l'obligation de prendre notre plainte. Donc je lui rappelle sa belle affiche et il n'a jamais voulu prendre ma plainte.
D'accord. Aujourd'hui, voilà, on en est où sur la mort de votre frère
Alors, on en est, je ne vais pas dire nulle part parce que ça a quand même avancé, mais enfin, on est resté, on reste très longtemps sans réponse parce que c'est silence radio de tous les interlocuteurs possiblement mêlés à l'affaire.
Donc, il avait une famille. Il avait une famille.
Pas de conjoint et pas d'enfant.
D'accord. Est-ce qu'il y a des, pardonnez ma question, est-ce qu'il y a des indemnisations pour les proches en pareilles circonstances ?
Alors, oui, si l'employeur est condamné. Pour l'instant, nous, on n'en est pas là, puisque l'enquête de gendarmerie a été réouverte au mois de septembre. Mmh. Et elle n'a toujours pas avancé. Et l'enquête de l'inspection du travail est terminée depuis juillet.
D'accord.
Donc, quasiment 2 ans jour pour jour après l'accident.
D'accord. Et l'employeur n'a pas été condamné pour l'instant ?
Il n'y a toujours pas de procès. On ne connaît même pas la suite possible, la suite possible, puisque le procureur, pour l'instant, n'a pas statué, étant donné que l'enquête de gendarmerie est toujours ouverte.
Merci Candice pour ce témoignage. Candice qui a perdu son frère, 41 ans, un accident du travail, et toujours, toujours, toujours les mêmes difficultés derrière pour faire reconnaître l'accident du travail, pour trouver une voie, une fin juridique, judiciaire, et souvent, souvent, très souvent, des employeurs qui se défilent. Didier est avec nous, mon cher Didier, bonjour, vous avez fait le 32-10. Qui êtes-vous, Didier ?
Je suis un retraité qui a travaillé pendant 35 ans dans un service de la sécurité sociale qui s'appelle Service Prévention des Risques Professionnels et dont l'objectif est de faire diminuer le nombre et la gravité des accidents du travail.
Ça n'a pas trop bien marché, Didier, parce qu'on est toujours, la France est sur le podium de tête des pays européens.
Hein. Je pense que c'est pas tout à fait bien. J'ai commencé à travailler, on avait 4000 morts par an dans le cadre du travail, il y a à peu près une quarantaine d'années. Ça, il faut le savoir quand même. On a réussi à diviser par 4, ce qui est déjà quand même quelque chose, c'est plutôt de trop.
Oui.
Naturellement, depuis 15 ans.
Éteignez votre haut-parleur, on vous entend très mal, Didier. Je ne sais pas si vous.
Je n'ai pas de haut-parleur, mais est-ce que vous m'entendez mieux là ?
Ah là, c'est mieux.
Vous rapprochez du téléphone.
C'est mieux.
Donc, depuis 15 ans, effectivement, ça ne bouge plus. Les chiffres accidents du travail. Il y a eu une petite baisse pendant le Covid, et pour cause, hein, puisqu'il y a eu beaucoup d'inactivité à ce moment-là. Mais c'est vrai que quand on regarde les chiffres, on ne peut pas faire une globalité des accidents du travail.
Comment les faire baisser ? Vous avez vu quand même, ça n'est pas rien. Le Premier ministre s'en empare de ce sujet. Et en même temps, il ne faut pas l'oublier, il y a les entreprises qui disent « il y en a marre des normes de sécurité, il y a trop de normes en France, etc. » Donc il ne faut pas que ça se télescope, ça.
Les entreprises, elles dépendent du code du travail, mais également du code de la sécurité sociale.
Oui.
Il faut savoir que dans chaque personne, il y a un service avec une trentaine de personnes, ingénieurs et contrôleurs, qui ont tout pouvoir en entreprise, qui peuvent faire arrêter des chantiers, etc. Et le texte dit que tout contrôleur ou ingénieur de la CARSAT peut demander toute mesure de prévention qui lui semble justifiée. C'est-à-dire qu'on n'est même pas lié à des textes. Lorsque les employeurs ne respectent pas, alors je ne vais pas parler des normes, mais ils font travailler leurs salariés en leur faisant prendre des risques, il y a possibilité d'intervenir pour les services de la sécurité sociale, qui mettent en injonction l'employeur de mettre en mesure de sécurité. S'ils ne le font pas, on peut augmenter leur taux de cotisation accident du travail de 25, 50 et même 200%.
Et là, d'accord.
Je peux vous assurer que dans ces cas-là, quand on voit un taux de cotisation qui va passer à 200%, on réagit.
Mais en tout cas, dans les cas qu'on a entendus, on voit la difficulté de faire reconnaître la culpabilité de l'entreprise.
Je peux vous parler d'un cas, j'ai entendu Arnaud qui était tombé de son échelle.
Oui. En installant des panneaux solaires sur un toit.
Voilà, alors il faut savoir que le Code du travail dit bien qu'une échelle, c'est pas un lieu de travail, c'est un moyen d'accès. Donc à l'employeur, c'est pas un poste de travail. On n'a pas le droit de faire travailler quelqu'un sur une échelle. On doit le faire travailler sur une nacelle et
d'accord.
pas sur un moyen d'accès. Donc là, effectivement, le rôle des contrôleurs ingénieurs, c'est d'aller sur le terrain à l'improviste, et on essaye de faire baisser au maximum. Il y a une autre mesure dont je voudrais parler. Dans le cadre du travail, il existe une formation pour tous les salariés, gratuite, sur le lieu de travail, pendant les heures de travail, qui est la formation de sauveteur-secouriste du travail. Et lorsqu'on a un secouriste, un accident grave a de fortes chances de ne pas se transformer en accident mortel. Ça, c'est important également. Ensuite, sur les chiffres, alors c'est le nettoyage et le travail temporaire qui arrivent en tête. Hein,
avec les nettoyages, travail temporaire, c'est les plus accidentogènes.
29%, l'alimentation, 17%, les transports, 15%, et le BTP n'arrive qu'en quatrième position à 14%.
Bien, restez avec nous Didier, c'est passionnant, beaucoup d'appels encore une fois sur ces chiffres que nous découvrons, nous qui ne sommes pas très au fait des choses. La France est un des pays qui enregistre aujourd'hui en Europe le plus d'accidents du travail. À tout de suite.
Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210.
50 centimes la minute.
Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
La France, mais dans le trio de tête des pays d'Europe où il y a le plus d'accidents du travail, 564 000 par an, plus de 1000 morts chaque année en France. Jean-François, bonjour. Bonjour Jean-François, où êtes-vous mon cher Jean-François et qui êtes-vous?
Je suis sur Tours et puis je suis ancien mécanicien poids lourd.
Que vous est-il arrivé? Pourquoi appelez-vous le 3210 Jean-François?
Il y a une bonne dizaine d'années, en remontant une route poids lourd, je me suis écrasé trois doigts.
Oui.
Une phalange que j'ai réussi à placer, une triple fracture ouverte. J'ai été reçu à la clinique de la main, pas très loin de chez moi, et qui était perplexe sur les suites que j'allais avoir pour cette phalange. Ils ne savaient pas encore ce qu'ils allaient faire.
Oui.
Ils se sont même interrogés sur l'amputation.
Oui.
Donc, ce qui ne me faisait pas vraiment sourire. Ça s'est bien fini parce que voilà, j'ai réussi, après plus d'un an de rééducation et puis la cicatrisation s'est bien passée, j'ai réussi à récupérer toute l'utilisation de ma main. Mais c'était dû notamment, parce que ça m'arrivait en atelier, c'était dû à un manque de matériel qu'on ne voulait pas nous mettre à disposition. Et pourtant, je travaillais dans un très gros groupe coté en bourse et puis qui avoisine le milliard de chiffre d'affaires annuel. Quoi.
D'accord. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous retirez de cette... De ce petit drame quand même qui vous a c'était moins une hein, vous auriez pu perdre l'usage de votre main, qu'est-ce que vous en retirez, que c'est les employeurs qui rechignent à investir dans les équipements nécessaires pour travailler normalement?
Là maintenant actuellement je travaille dans une plus petite entreprise, je suis plus mécanicien poids lourd, je suis toujours dans le domaine du poids lourd mais je suis plus mécanicien, je suis dans une plus petite entreprise parce que là l'entreprise que je vous parle c'était plus de 2000 salariés.
Est-ce qu'ils ont été à la hauteur en termes de droit du travail, reconnaissance des choses, dans non. l'enquête, indemnisation?
Pas du tout. Les seuls trucs qu'ils ont fait, j'étais arrêté 4 mois au total. Et pendant les 4 mois, c'était contrôle de la sécu tous les 15 jours. Voilà, oui. C'est la seule chose qu'ils ont fait. Moi, j'ai eu donc une visite. J'étais obligé de repasser par la médecine du travail. Il se trouvait que je connaissais personnellement ce médecin du travail parce qu'on avait une patiente en commun. Et lui avait demandé au CHSCT qu'il y ait des chariots, que les agences soient équipées d'un chariot pour manipuler les roues de poids lourd parce que c'est entre 80 et 100 kilos une roue. C'est quand même assez lourd. Il avait eu une réponse du CHSCT, on va faire quelque chose. J'ai toujours des contacts dans l'entreprise, j'ai des anciens collègues qui sont
venus,
je leur en ai parlé, il n'y a toujours rien eu de fait. Et ça fait plus de 10 ans. Et ça ne me surprend pas, et il y a même eu dans d'autres agences que celle où je suis, il y a eu des morts.
Vous avez reçu une indemnisation, il y a eu des morts, vous dites?
Oui, il y a eu des morts parce qu'on faisait de la, on faisait du dépannage 24/24. Les amplitudes de travail quand on était d'astreinte, c'était c'était monstrueux, parce que si on se trouvait à partir en dépannage toute la nuit, on travaillait quand même la journée. Donc, au bout d'un moment, voilà, moi j'ai
Vous avez perçu une indemnisation ou pas, vous ?
J'ai eu quasiment, j'avais eu un truc de la sécu parce que j'avais eu un handicap partiel. Je sais plus, j'avais eu, mais c'était rien quoi. C'était 200, 300 euros, un truc comme ça, pas plus. C'était une somme forfaitaire. J'ai pas eu, je touche pas une pension, je touche rien du tout. Quoi.
Ouais.
Bon, maintenant j'ai récupéré l'usage de la main.
Bravo. Mais... Et là c'est aussi, j'allais dire, c'est l'essentiel. Hein, c'est vraiment la chose la plus importante. Merci Jean-François. Je voudrais qu'on revienne vers Véronique. Hein. Son fils, nous disait-elle en début d'émission, est décédé en tombant d'un toit. C'était de la pose de panneaux solaires. Et puis vous avez adhéré, dynamisé un collectif qui est devenu une association Stop aux morts au travail, Véronique. Bon, la vertu de la prise de parole hier du Premier ministre Gabriel Attal qui a parlé des accidents du travail, c'est que au moins on en parle, on vient d'en parler une heure avec des témoignages. Il faut que ça bouge, Véronique.
Oui, tout à fait. Alors, nous, on est très contents de pouvoir nous exprimer sur votre antenne et que le Premier ministre en ait parlé, c'est une bonne chose aussi. Maintenant, nous, on continue nos actions. On est toujours, on prend des contacts avec un peu des députés, des sénateurs. Voilà, on a déjà un peu travaillé hein, avec une députée du Parlement européen, Marina Mesure. On a travaillé avec Madame Bouvet-Panossian à l'Assemblée nationale, Aurélien Satoul, et on continue de lancer des pistes pour faire parler de ce sujet et puis pour interpeller surtout parce que je voulais rebondir sur ce que le monsieur a dit tout à l'heure. La chute de hauteur, c'est la deuxième cause de mortalité au travail. Et c'est pas forcément dans le BTP. Vous voyez, par exemple, notre fils Alban, l'installation de photovoltaïque, ça ne relève pas du BTP. Le premier témoignage que vous avez eu tout à l'heure, ce monsieur ne relevait pas du BTP non plus et il a fait une chute de hauteur. Donc, il faut se méfier des chiffres. Voilà, qu'on entend.
Merci Véronique, merci à vous. 564 189 accidents du travail l'année dernière et près d'un millier de morts. Merci, c'était très bon de vous entendre sur ce sujet qui n'est pas très gai, mais qui est un vrai, vrai problème sur lequel j'espère le gouvernement va vraiment se pencher. Voilà. Cyprien Signy vient dans le studio. Bonsoir Cyprien.
Je viens vous parler du programme d'RTL. Bonsoir, 18h-20h ce soir, c'est exceptionnel. Suite au départ du proviseur du lycée Maurice Ravel, vous savez, pour l'affaire de voile, suite aux alertes à la bombe et au piratage, eh bien la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, viendra s'expliquer sur RTL. C'est un événement. À 18h40, on sera au cœur de l'enquête Émile. Et puis en deuxième heure... Magnifique Texas.
Texas, mais oui, Charlene Spiteri, c'est des Gallois, ils viennent pas du tout du Texas. Hein,
ah, pas du tout, ouais. C'est écossais même.
Écossais,
et ils sortent un nouvel album uniquement piano-voix, c'est magnifique, elle sera avec nous pour nous parler musique, pour nous parler foot, enfin le grand quiz.
Vous êtes sûr que c'est écossais, Texas?
Ah oui, je suis
sûr. Très bien.
J'ai parlé avec elle, elle a l'accent écossais.
Très bien.
Une semaine de croisière à gagner pour vous inscrire, vous tapez bonsoir par SMS et vous envoyez tout ça au 64 900, on compte sur vous.
Où partons-nous? Merci beaucoup Cyprien pour ce programme. Où partons-nous Victor aujourd'hui?
Avant de partir, il faut quand même dire aux auditeurs d'RTL que, à l'occasion de Pâques, RTL vous offre, aux auditeurs qui interviennent sur l'antenne, aujourd'hui un assortiment de chocolat Jeff de Bruce. Vous allez être gâtés, un assortiment
tous
de
ceux qui sont passés au 3210.
Exactement,
là.
On les rappelle, on prend leurs coordonnées, on leur envoie un assortiment de chocolat de Pâques comprenant une grande variété de recettes pralinées ainsi que les iconiques lapins en guimauve enrobés de chocolat. Mais maintenant, Eric, on va partir au bout du monde et pour ça, un indice sonore.
Je crois que j'ai trouvé. Je suis pas sûr, mais je crois avoir trouvé, mesdames, messieurs.
Vous voulez remporter un guide du routard, vous nous envoyez votre réponse où on part sur notre application RTL.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Bru. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
C'est Enzo qui est au standard aujourd'hui. Enzo, où allons-nous voir notre auditeur du bout du monde?
On part au Sénégal et c'est Jean-Philippe de Cambrai qui remporte le guide du routard. On va retrouver Myriam.
Myriam, parce que c'était Youssou N'Dour, artiste sénégalais qui chantait, une star en Afrique de l'Ouest. C'est parti.
L'auditeur du bout du monde.
Bonjour Myriam.
Bonjour Eric, bonjour la France.
Bon, regardez le ciel, regardez autour de vous et faites-nous un peu la carte postale. Qu'est-ce qui se passe là autour
Alors,
de vous
moi je suis à Oussouy. Mmh. C'est un petit village en Basse-Casamance qui se trouve à 30 minutes de route du Cap Skirring.
Oui.
Il fait 40 degrés.
Oui.
on a parce que ici l'hivernage est un peu violent, donc on a les cases à un pluvium à côté.
Oui.
On a les palmiers. On a la teranga, c'est-à-dire la terre d'accueil ici. Ici bientôt on va manger.
Ah oui, on va bien. Oui, on va manger bientôt. Et dites-moi, la Casamance, c'est une région sublime. Il paraît au sud du Sénégal.
C'est très magnifique.
Très verdoyante, etc.
Ouais, on est. C'est une végétation luxuriante.
Oui.
Quand on fait du trek le matin, on part de bonne heure parce que ici, on vit avec le soleil.
Oui.
Donc, on se lève tôt et on se couche tôt.
Oui.
Et quand on part, à l'embarcadère pour aller sur les îles, on va à pied à travers la forêt tropicale. On sent l'humidité des arbres tomber sur les bras, sur le corps. C'est hyper, c'est réconfortant, gratifiant et ça fait un bien fou.
Qu'est-ce que vous faites, Myriam, au Sénégal ? Vous avez un métier, un travail ?
Oui, alors moi, autour de moi il y a du bruit, c'est normal, hein, parce que je me trouve dans un restaurant.
Oui.
Et alors, moi je m'occupe de l'orphelinat Sainte-Thérèse.
D'accord.
Oussouy.
D'accord.
Donc c'est une pouponnière. Mmh. Malheureusement, cette semaine on ne pourra pas entendre les enfants car c'est la semaine sainte.
Ah, d'accord. C'est une pouponnière qui est tenue par des sœurs catholiques, c'est ça ?
C'est ça. D'accord. C'est ça. C'est sœur Collie qui a fondé l'orphelinat.
D'ailleurs, le sud, d'ailleurs, la Casamance, dans un pays, le Sénégal, qui est à très grande majorité musulmane, c'est une région où il y a beaucoup de chrétiens, la Casamance.
Alors, la Casamance, essentiellement, parce que le Sénégal, en fait, on a trois religions principales, d'accord ? Et ici, en Casamance, on a essentiellement des animistes et des chrétiens.
Et des chrétiens, d'accord, oui.
Voilà. Il y a un petit peu de musulmans. Enfin, tout le monde vit ensemble, en harmonie. Voilà.
Ouais, c'est un pays, le Sénégal, où les gens, d'ailleurs, dans la même famille, il n'est pas rare d'avoir le frère aîné qui est musulman, la sœur cadette qui est chrétienne, le troisième qui
Absolument.
Est animiste. C'est étonnant pour ça, le Sénégal.
Hein. Absolument. Mmh. Moi, je connais des enfants qui s'appellent Jean Babacar.
Ouais.
Ou Marie Fatou. Mmh.
Et alors, Myriam, vous êtes au restaurant. Quel est le plat national là-bas?
Alors, ici, en Casamance, nous avons le caldou.
C'est à base de quoi ?
Alors, c'est forcément, hein, en Casamance, il y a des rizières.
Oui.
Donc, le riz. Le riz, c'est l'alimentation de base.
Mmh.
Ensuite, le caldou, il y a des légumes, du poisson, et ce sont des gombos, en fait... qui sont cuisinés de l'oseille, comme de l'oseille, et qui servent de sauce.
Mmh. Dites-moi, Myriam, oui, il y a une élection présidentielle dimanche au Sénégal.
Il y a
un nouveau président. Il y a un nouveau président de la République sénégalaise.
Absolument, Bassirou.
Bassirou. Que disent les gens ? Il a été élu triomphalement. Hein.
Alors, ici, tout le monde, enfin, dimanche. Alors, pour la petite histoire, la semaine dernière, j'étais en France.
Oui.
Voilà. Et je suis arrivée samedi à Dakar.
Oui.
Et je devais faire une escale d'1h30 pour ensuite rejoindre l'aéroport de Cap Skirring.
Oui.
Là où il y a les belles plages, les palmiers, enfin voilà. Et du coup, l'avion a été annulé parce que quand il y a élection présidentielle, on ne peut pas sortir du département.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc du coup retour à la maison un petit peu plus tard.
D'accord.
Mais ça s'est très bien passé. Il y a eu aucune anicroche. Au contraire, le soir, on a entendu les klaxons. Enfin, voilà.
La fête. Élu au premier tour, quand même. Hein. C'est une des rares démocraties africaines. C'est très précieux. Et les Sénégalais, paraît-il, sont amoureux de la démocratie et de cette liberté. Et c'est terriblement revigorant. Merci, Myriam, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. On entend la joie avec autour plaisir. De vous. On attend la joie autour de vous. On aimerait bien être à votre place. Bon, on vous embrasse très, très fort dans votre Casamance, ma chère Myriam. Vous en avez parlé avec énormément d'enthousiasme. Encore une auditrice du bout du monde qui est heureuse là où elle est. Merci à tous. Merci, Victor. Merci, vous avez remplacé avantageusement Lisa Marie, mais pas trop, parce que comme elle nous écoute, il ne faut pas que ce soit non plus trop, too much. Bonjour, Jean-Alphonse.
Et bonjour, et c'est l'heure du crime qui arrive tout de suite avec aujourd'hui la mort ô combien mystérieuse d'Anne-Charlotte Poncin. C'est en 2016, dans l'Ain.
Bel après-midi à l'écoute d'RTL. Salut les amis. RTL.